franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. C'est Socrate qui écrivait cela et c'est à lui qu'on a pensé à la lecture du reportage de Sylvia Zappi dans Le Monde. Reportage dans le quartier du Neuhof à Strasbourg avec un groupe d'adolescents qui vient de lancer un concours pour faire chuter l'abstention lors de la prochaine élection présidentielle. C'est le 21 avril qu'ils ont donné le coup d'envoi de leur compétition en lice. 18 quartiers des 6 coins de l'Hexagone à Roubaix, à Belfort, Vénissieux, Marseille ou Nanterre. But du jeu, recueillir d'ici 2017 un maximum d'inscriptions sur les listes électorales. On essaie de motiver les gens pour qu'ils fassent entendre leur voix, explique Nasser, 18 ans. Ils râlent quand il y a des lois qui ne leur plaisent pas, mais ils ne font rien quand ils ont l'occasion de voter, ajoute Camélia, 19 ans. Récit d'une journée de porte-à-porte dans des cités HLM. Premier appartement, une mère de famille, c'est de bambins dans les jambes. Bonjour, on fait le tour du quartier pour proposer de s'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes inscrite, madame ? La jeune femme ne sait pas. « J'ai jamais fait », dit-elle. Puis en deux minutes, sa carte d'identité et sa dernière facture EDF sont scannées et le formulaire signé afin d'être envoyé ensuite à la mairie. Cependant, les portes suivantes sont moins accueillantes et vitres fermées après des réponses lapidaires. « Je n'ai pas le temps, je suis pressé » ou bien « ça ne sert à rien » à part pour ceux qui s'en mettent plein les poches. De toute façon, ce sera un enfoiré qui sera élu, assène un retraité, tandis qu'un étage plus haut, un quadragénaire au chômage, lance aux jeunes que les politiques, ce sont tous des pourris et puis mon vote ne pèsera rien. « Mais si tu votes pas, t'es personne », lui répond Nasser. Ce jour-là, sur les 5 immeubles sillonnés par le groupe, la récolte est maigre, 8 formulaires récoltés, mais le lycéen veut encore croire que son quartier gagnera le concours. Pour la présidentielle de 2017, les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu'au 31 décembre. Et il nous reste donc 7 mois, calcule rapidement Nasser, 7 mois pour motiver les électeurs du quartier du Neuhof. Le mois de décembre. C'est à cette date-là qu'Arnaud Montebourg souhaiterait d'ailleurs que soit organisée la primaire pour désigner le candidat qui portera les couleurs de la gauche à la présidentielle.
Arnaud Montebourg qui semble chaque jour un peu plus désireux de se lancer dans la course à l'Élysée.
Pour preuve, la longue interview qu'il a donnée aux journalistes du service politique du Parisien. Il y a 2 ans, le remuant ministre du redressement productif avait été viré par Hollande et par Valls, ulcérés tous les deux par ses provocations. Il s'était alors reconverti dans le business, se découvrant entrepreneur pour Habitat notamment. Mais le démon de la politique ne l'a donc pas quitté. Et après son discours au Mont-Beuvray lundi dernier, il explique au journal qu'il faudra compter avec lui dans les semaines et les mois qui viennent. Dès aujourd'hui, il lance d'ailleurs son site présidentiel, le projetpourlafrance.fr, projet pour lequel il a fait plancher 28 groupes de travail, aidés pour ce faire par l'ex-conseiller de l'Élysée Aquilino Morel et par Hakim El Karoui, qui fut dans le passé l'une des plumes de Jean-Pierre Raffarin. Question du journal, pourquoi revenez-vous en politique ? Parce qu'on ne peut pas rester passif quand on sait qu'on peut faire quelque chose pour contribuer à sortir son pays de la difficulté, répond l'ancien ministre, précisant qu'il a décidé de s'atteler à bâtir avec tous les Français qui le souhaitent un projet alternatif. Considérez-vous que François Hollande ne pourra pas se représenter. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la primaire de la gauche est indispensable et que ce serait de l'intérêt de tous de s'y soumettre, y compris de l'actuel président. Et s'il n'y a pas de primaire ? Dans ce cas, il est évident que je ferai usage de ma liberté, prévient Arnaud Montebourg, avant de dire tout le mal qu'il pense de la loi El Khomri, la politique du coup de force permanent et dangereuse, faire passer coûte que coûte une loi en utilisant le 49-3 alors qu'elle n'a ni soutien populaire ni soutien parlementaire, mène à l'impasse, estime-t-il. Et l'impasse, c'est ce que décrit le journal du dimanche, la rue grogne, la CGT appelle à la grève générale, des piquets de grève continuent de bloquer des raffineries, des casseurs mettent la police sur les dents et ce vendredi, l'effigie de François Hollande a même été brûlée dans une rue d'Albi.
D'où cette question que pose ce matin l'hebdomadaire, jusqu'où la crise ?
C'est Laurent Valdiguier qui analyse la situation. À droite, comme à gauche, dans les rangs des manifestants comme dans ceux qui dénoncent la chienlit qui s'installe, tous sont d'accord pour parler d'une situation tendue. On danse sur un volcan, admet l'un des leaders de la majorité, constatant qu'il n'y a aujourd'hui aucune porte de sortie. Certes, les défilés contre la loi travail faiblissent par leur ampleur, mais dans le même temps, le mouvement de contestation se durcit, prochaine manif jeudi et affrontement à prévoir jusqu'en juillet. Mais alors comment en est-on arrivé là ? Réponse du sociologue Michel Vievorka. Suite à la droitisation du pouvoir en place, dit-il, d'abord avec la déchéance de nationalité, puis sur le terrain social, un énorme espace politique s'est ouvert à gauche et tout s'y engouffre aujourd'hui. Pour d'autres, le mouvement s'explique par l'agonie de la CGT qui se bat pour sa survie et attise donc la crise, puisque si la loi passe définitivement, la centrale risque de tout perdre sur le terrain au profit de la CFDT. Dans le journal, Thierry Mandon déclare même que pour lui, la crise est encore plus profonde. Il est secrétaire d'État, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et il estime que les racines du mal se trouvent dans les ratés de notre machine à décider. Notre système est obsolète, à bout de souffle, assure-t-il, et il faut avoir le courage de repenser notre façon de gouverner. Il ajoute qu'à ses yeux, on parle encore aux citoyens comme il y a 50 ans, alors qu'ils sont maintenant plus éduqués, surinformés, et pour lui, la loi El Khomri est le produit de toutes ces dérives, une critique venue de l'intérieur. Rappelons que Thierry Mandon est au gouvernement, une critique ferme et accablante à la fois.
Et comme hier, la presse régionale s'alarme du manque d'essence lié au blocage des raffineries.
La ruée provoque la pénurie, note ainsi le courrier de l'Ouest, tandis que le courrier Picard précise que l'État a pris des arrêtés pour réserver les pleins aux services de secours. Et pour ce faire, certaines stations ont été réquisitionnées. La Loire-Atlantique frôle la panne sèche, constate Presse Océan. La quasi-totalité des stations du département sont en rupture de stock depuis hier après-midi. À Lille, il n'y a plus de carburant nulle part, indique pour sa part Nord Éclair, raison pour laquelle certains partent remplir leurs réservoirs en Belgique. Témoignage d'un pompiste belge dans la Voie du Nord. En ce moment, je travaille presque deux fois plus que d'habitude, pourvu que ça dure. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, comme le dit l'expression. À la rubrique politique, on notera par ailleurs l'annonce de Valérie Pécresse dans le JDD. La présidente de la région Île-de-France annonce la disparition du ticket de métro dans les transports parisiens à l'horizon 2021. Entre 2018 et 2020, sera également mis en place le Pass Navigo sur smartphone, ce qui permettra de télécharger le forfait de transport directement sur son téléphone. Et puis, sur le blog de l'excellent Didier Paubel, une restriction budgétaire qui envoie un drôle de signal, Patricia.
Le titre de son billet, c'est « Pauvre sens, pauvre mémoire ».
Les temps sont durs, écrit-il. Il faut faire des économies. Tout le monde doit faire des économies. Moi, nous, vous, nous. Laurent Wauquiez aussi, il n'y a pas de raison. Largement élu à la tête de l'Assemblée Rhône-Alpes, Auvergne en décembre, le très volontariste tombeur de Jean-Jacques Kerrane jure la main sur le cœur qu'il va tirer presto un trait sur la gabegie de son prédécesseur socialiste. Alors, il rogne, normal. Rogni, rogné, rognon. Trois sous par-ci, un peu plus par-là. Des ponctions qui, à force d'être routinières, émeuvent à peine. Sauf que là, c'est un peu différent. 40 000 euros en moins pour la maison d'Izieux. Le couperet est tombé pour ce lieu de mémoire, pas comme les autres. Bon, il paraît que la décision a été discutée en amont et que le président de l'association a dit qu'il s'en accommoderait. On salue sa résignation et on ne doute pas que l'argent récupéré sera utilisé ailleurs à bon escient, mais comment cependant ne pas exprimer le malaise que nous ressentons? Car enfin quoi? Izieux, ce n'est pas une troupe de saltimbanques, poursuit Didier Paubel. Izieux, c'est le tombeau virtuel de 42 enfants juifs et 7 éducateurs raflés sans retour par Barbie le 6 juin 44. Izieux, ce n'est pas seulement un lieu de mémoire, c'est aussi un espace de documentation et de pédagogie. Faire des économies de bout de chandelle ici, c'est prendre le risque de laisser s'éteindre la flamme de la transmission. Monsieur Barnavi, que pensez-vous de ce type de restriction budgétaire?
Tout le bien qu'on pouvait imaginer, ça. Vraiment, l'insensibilité, le manque d'intelligence de jugeote, je dirais, c'est vraiment triste.
Dans le reste de l'actualité, Patricia, les élections présidentielles en Autriche, la dépêche du dimanche évoque la menace de l'extrême droite. Nous en avons parlé dans les journaux, nous en reparlerons encore. Résultat du scrutin à la fin de la journée, l'ouverture du tournoi de Roland-Garros. Angle intéressant dans les colonnes de la Croix qui nous dit que désormais on s'habille de nouveau pour venir assister au match. N'est pas encore le prix de Diane, l'une des courses hippiques les plus élégantes de la saison, mais on voit de plus en plus de mocassins et
pas
de jolis polos. Si, les Panamas, les Panamas blancs qui sont vendus à côté des terrains de Roland-Garros, éventuellement. Et puis des nouvelles des organes de Michel Houellebecq. C'est à lire dans le JDD, une expo. Is Michel Houellebecq OK? C'est le titre de l'intervention de l'écrivain pour Manifesta 11, la Biennale d'art qui s'ouvrira à Zurich à partir du 11 juin. L'écrivain y présentera 10 images d'IRM de ses organes pour que les visiteurs voient si je vais bien. François Hollande disait « ça va mieux » à Zurich, on pourra voir si Michel Houellebecq va bien.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.